Les Nombres de Vénus, Juliana, sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Bonjour Sandrine.
Bonjour Juliana.
Eh bien, c'est notre première émission de cette année 2024. Bonne année, Sandrine.
Très bonne année, Juliana.
Et bonne année à tous ceux et celles qui nous écoutent, bien sûr, sur Canal B. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une émission démarrage de l'année. Il y aura aussi une chronique de Blaise sur littérature jeunesse tout à l'heure. Mais nous avons, en fait, choisi ensemble de remonter le temps et de commencer cette année avec les 40 années de littérature depuis 1984, puisque cette année, la radio Canal B fête ses 40 ans. C'est une bonne idée, ça, non ?
C'est une idée qui est vraiment excellente, à laquelle j'adhère. Et j'adore.
Et justement, pour démarrer, nous avons dit la première émission, ce sera une émission dédiée à 1984. Alors, moi, j'ai triché un peu, pas toi, mais on va en parler dans un instant. Et il faut savoir que la prochaine émission, on va parler d'une année, mais il ne faut pas que ce soit comme ça par ordre chronologique. Donc, on va faire un tirage au sort en
trop
direct pour savoir quelle est l'année que nous allons traiter la prochaine fois. Et ouais, c'est cool ça.
Mais oui. Alors, il y en a qui tirent les reines et les rois. Eh bien, nous, on tire des dates. C'est pas génial, ça?
C'est génial. Et tu vas nous parler tout à l'heure de quel livre, alors, Sandrine?
Oui, alors c'est un grand plaisir pour moi de présenter L'insoutenable légèreté de l'être.
Magnifique, qui est un livre culte, comme on dit. Il a été écrit en 84 ou il était publié plutôt
c'est
en 84?
Alors écoute, si je prends la mention de le copyright exactement publié chez Gallimard, on est bien en 1984 avec le copyright.
Génial. Donc nous allons entendre, si tu veux bien, ta chronique sur la légèreté de l'être.
L'insoutenable.
Dans quelques... Oui, l'insoutenable.
Attention, je tiens ce titre et je t'expliquerai pourquoi,
mais
tu le sais aussi bien que moi, tu le connais très bien.
Il est magnifique. D'ailleurs, c'est insoutenable ce que je propose également. J'ai triché parce que...
Donc.
Oui, absolument.
Oh, tu ne triches jamais, Juliana.
Non, mais là, l'occasion était trop belle. Je me suis dit, Canal B est né en octobre 1984, à peu près, c'est l'information que j'ai eue. Mm-hmm. Et 1984 est aussi le titre magnifique du roman de George Orwell. Donc, paru dans les éditions Gallimard également, les éditions du monde entier, n'est-ce pas, cette collection. Et la nouvelle traduction de 2018, tenue par José Camoun est absolument superbe. Donc pourquoi je vous parle de ce livre? Certainement parce que c'est un des livres les plus punk qui existent et parce que 1984 n'a pas du tout été rédigé ni publié en 1984, mais bien en 1949 par cet auteur qui est absolument un visionnaire, quoi. Enfin, un homme qui nous plonge dans une société, dans un monde, on va dire, complètement totalitaire, oppressant, terrible. On est dans le monde de Big Brother et on est parmi des gens qui, dont leur existence, du moins la plupart de la population de masse, comme on dit, les prolos aussi, qui est une population complètement dépourvue de leurs droits, dépourvue de leur vie carrément, parce qu'ils vivent vraiment sur l'emprise de Big Brother. Ça veut dire qu'ils ne peuvent rien faire, exister nullement sans l'État, sans cette collectivité, sans une façon unique de penser, et le passé n'existe plus. Et il est sans cesse renouvelé. On vit toujours au présent. On fait une sorte de complètement oublier tout ce qui a été parce que ça pourrait rendre des gens savants. Et avoir les savoirs, c'est avoir le pouvoir. Donc je vais tout simplement, pour ceux et celles qui nous connaissent, mais j'imagine que vous êtes assez peu de ne jamais avoir entendu parler de ce livre qui récemment en plus est tombé dans le domaine public. Donc fait déjà objet de films, de bandes dessinées, etc. Je vais vous lire un extrait assez flippant, court, mais qui donne quand même la mesure de cette situation où on va voir évoluer le personnage de Winston, aussi le personnage de Julia. Et bien sûr, c'est un livre qui, dès le départ, quand on commence, quand on démarre, on ne peut plus le lâcher jusqu'à la dernière ligne. Du berceau à la tombe, les membres du parti vivent sur l'œil de la mentopolis. Où qu'ils soient, qu'ils veillent ou qu'ils dorment, travaillent ou se reposent, dans son bain, dans son lit, il peut être inspecté sans préavis et à son insu. Rien de ce qu'il fait n'est nul et non avenu. Ses fréquentations, la façon dont il se détend, dont il traite sa femme et ses enfants, l'expression de son visage lorsqu'il est seul, les mots qu'il marmonne dans son sommeil et jusqu'aux mouvements caractéristiques de son corps, tout est passé au crible. Tout écart de conduite, toute excentricité, fût-elle mineure, tout changement dans ses habitudes, tout tic nerveux qui soit le symptôme d'un conflit intérieur seront immanquablement détectés. Il n'y a pas la moindre liberté de choix dans le moindre domaine, alors même que ces actes ne sont pas régis par la loi ou par un code de conduite clairement formulé. Il n'y en a en effet pas de loi en Océanie. Les pensées et les actes qui, une fois découverts, signeraient son arrêt de mort ne sont pas formellement interdits et les purges, les arrestations, les tortures, les incarcérations et les vaporisations sans fin ne sont pas la punition des crimes effectivement commis mais visent simplement à rayer de la carte des individus susceptibles de commettre un crime dans l'avenir. Et ce crime serait peut-être de protester contre un État, n'est-ce pas? Et ben voilà, donc c'est vrai que c'est un peu glauque pour un début d'année, mais nous avons tellement besoin, je pense, dans nos temps à venir, aujourd'hui, présent, futur, de penser aussi à tout ça, que je vous souhaite une excellente bonne année, tout en lecture avec 1984 de George Orwell, paru aux éditions Gallimard, mais aussi disponible en poche.
Est-ce que c'est pas aussi le rejet total de la culture? Ce livre-là ?
Ah oui, complètement. Ah oui, complètement, on y est. Mmh. Ah ouais, entre autres. Mais nous, on aime la culture, on aime 1984, on aime Canal B et la musique qui va avec. c'est l'anniversaire de Canal B qui fête ses 40 ans en cette année 2024, puisque la radio est née en 1984, comme nous venons d'entendre, par exemple, dans cette chanson de Bowie.
Oui.
Dans quelques instants, vous allez entendre la chronique de Blaise sur la littérature jeunesse, un livre paru en 1984 de Daniel Pennac, L'œil de loup. Mais pour l'instant, on va rester avec l'insoutenable légèreté de Lettres de Kundera. Avec toi, Sandrine, quel bonheur.
Ah, quel plaisir. Et quel plaisir d'avoir entendu ce magnifique David Bowie. Mon Dieu, à chaque fois que je l'entends, j'ai des frissons. Et cette chanson, plus précisément, qui colle parfaitement à cette journée.
Enfin, 40 ans de frissons, quoi.
Ouais, c'est, ah, ça. C'est ça. Exactement. Voilà, j'ai découvert évidemment Bowie en 1984, je l'avoue.
Mm.
Extraordinaire. Alors, je suis ravie de vous présenter ce titre. Oui, je dis ce film parce qu'il en a été tiré aussi un film, mais avant tout, ce roman de Milan Kundera, très très grand auteur tchèque, évidemment. Roman, bon, voilà, qui est paru en 1984 chez Gallimard. Alors, j'aime le titre, j'aime le récit, j'aime évidemment ce qui se cache entre les lignes. J'aime cette apparition de Nietzsche à un moment donné. J'aime aussi ce que ça dit, c'est-à-dire tout. De quoi ça parle précisément ? Évidemment, tu te doutes que j'ai choisi ce livre parce qu'il parle d'amour. Le sentiment amoureux est très important dans ce que j'ai envie de présenter, évidemment. J'ai cette grande liberté, alors je la saisis à pleine main et à pleine bouche, j'ai envie de dire. Ça parle d'amour, évidemment, quand on parle d'amour, on ne peut pas ne pas parler de séparation. Ça parle de la légèreté d'aimer, de la profondeur d'aimer aussi. Ça parle de quoi ? Ça parle du coup de foudre. Ça parle de la fidélité, de l'infidélité, bien sûr. Ça parle aussi de la jalousie. Ça parle des tentations. Ça parle de la profondeur des sentiments. Tout ce que j'aime. Alors voilà, c'est un livre qui s'adresse à chacun, à chacune. Pourquoi ? Parce que ça parle de toi, ça parle de moi, ça parle des auditrices, des auditeurs, des gens qu'on connaît, des gens qu'on rencontre, des gens qu'on a lus aussi, bien évidemment, des gens qu'on voit au cinéma et des gens de la vie. Ça parle de toi, ça parle de moi, ça parle à tous et à toutes, bien sûr. Pourquoi ? Il y a plusieurs personnages qui se succèdent tout au long du roman. Il y a évidemment cette envie de Milan Kundera de traverser avec ces personnes leur vie, d'être dans leur vie au plus près. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de saisir exactement ce qu'est la vie amoureuse dans cette légèreté de l'être, dans cette insoutenable légèreté de l'être. Alors ça parle évidemment d'émotion, ça parle de cette dualité qui caractérise l'être humain, de nos contradictions. On peut dire que ce roman est le roman qui parle de l'amour, de ses paradoxes. Alors c'est ça qui me plaît. Alors il y a donc quatre personnages, il y a Sabine et Franz, il y a Thomas et Teresa. À quelle époque on est ? On est en 1968, au moment où l'URSS envahit la Tchécoslovaquie. Alors, je parlais de Nietzsche, évidemment. Dans ce livre, on va parler de quelque chose qui est absolument saisissant, dans lequel on pourrait passer des heures et des heures à réfléchir. C'est le mythe de l'éternel retour. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, en fait, si nous avions une vie qui durerait éternellement, qu'est-ce que nous aimerions faire pour être tout le temps dedans ? Alors, je vais juste vous citer un petit extrait avant de vous lire un passage beaucoup plus important. Je cite Milan Kundera. « L'homme ne peut jamais savoir ce qu'il faut vouloir, car il n'a qu'une vie, et il ne peut ni la comparer à des vies antérieures, ni la rectifier dans des vies ultérieures.
Mmh. »
Alors voilà, vivons et imaginons quelle vie nous aimerions avoir si nous la vivions tout le temps. Je trouve que cette idée est absolument fabuleuse à l'aide de Nietzsche. Elle a été évidemment exploitée, traitée, analysée, mise en lumière par la formidable écriture de Milan Kundera. Alors évidemment, ce titre, c'est pas un oxymore, quoique l'insoutenable légèreté de l'être. Je ne sais pas, c'est complexe et à la fois c'est un titre, j'ai jamais trouvé un titre aussi beau ailleurs. Il me plaît sans doute parce qu'évidemment il me parle. Parce qu'il y a beaucoup d'autres titres fabuleux de la part d'autrices et d'auteurs, comme vous le savez. Alors, on va aller à cette page 77 du folio, avec le personnage Thomas, qui lui est plutôt un personnage dans une légèreté d'aimer, mais qui sait ? Peut-être qu'à un moment donné, cet éternel retour va justement lui faire toucher du doigt qu'aimer, c'est peut-être aussi à un moment donné s'approcher de quelque chose qui n'est pas la légèreté.
Mmh.
Alors, ce que j'aime, c'est qu'évidemment, Milan Kundera ne donne pas de réponse. Il nous laisse simplement avec ses émotions, ses sentiments, ses personnages qui se rencontrent, qui se confrontent, qui se découvrent et qui sont évidemment simplement dans la façon d'aimer. Mais il n'y a pas qu'une seule façon d'aimer, vous le savez bien. Alors je vais prendre cet extrait de la page 77. Après son retour de Zurich à Prague, Thomas fut pris de malaise à l'idée que sa rencontre avec Teresa avait été le résultat de cet improbable hasard. Mais un événement n'est-il pas au contraire d'autant plus important et chargé de signification qu'il dépend d'un plus grand nombre de hasards? Seul le hasard peut nous apparaître comme un message. Ce qui arrive par nécessité, ce qui est attendu et se répète quotidiennement, n'est que chose muette. Seul le hasard est parlant. On tente d'y lire comme les gitanes lisent au fond d'une tasse dans les figures qu'a dessinées le marc de café. La présence de Thomas dans sa brasserie, ce fut pour Teresa la manifestation du hasard absolu. Il était seul à une table devant un livre ouvert. Il leva les yeux sur elle et sourit. Un cognac. À ce moment-là, il y avait de la musique à la radio. Teresa partit chercher un cognac au comptoir et tourna le bouton de l'appareil pour augmenter le volume. Elle avait reconnu Beethoven. Elle le connaissait depuis qu'un catcheur de Prague était venu en tournée dans la petite ville. Teresa, comme nous le savons, elle aspirait à s'élever, allait au concert. La salle était vide. Elle s'y retrouva seule avec le pharmacien et son épouse. Il y avait donc un quatuor de musiciens sur la scène et un trio d'auditeurs dans la salle. Mais les musiciens avaient eu la gentillesse de ne pas annuler le concert et de jouer pour eux seuls, pendant toute une soirée, les trois derniers quatuors de Beethoven. Le pharmacien avait ensuite invité les musiciens à dîner et avait prié l'auditrice inconnue de se joindre à eux. Depuis, Beethoven était devenu pour elle l'image du monde, de l'autre côté, l'image du monde auquel elle aspirait. À présent, tandis qu'elle revenait du comptoir avec un cognac pour Thomas, elle s'efforçait de lire dans ce hasard. Comment se pouvait-il qu'à ce moment même où elle s'apprêtait à servir un cognac à cet inconnu qui lui plaisait, elle entendit du Beethoven? Le hasard a de ses sortilèges, pas la nécessité. Pour qu'un amour soit inoubliable, il faut que les hasards s'y rejoignent dès le premier instant, comme les oiseaux sur les épaules de saint François d'Assise.
Magnifique! Je tiens quand même à spécifier que 1984 est une année très riche de côté littérature et que d'ailleurs le prix Nobel de littérature cette année-là, c'est un autre tchèque qui s'appelle Jaroslav Seifert. C'est d'ailleurs un poète plutôt. Hein. Mais ne laissons pas les femmes de côté puisque nous aimons trop en fait les autrices. Et à savoir quand même qu'il y a au moins trois autrices que nous adorons ici dans cette émission, qui n'ont seulement publié des livres absolument magnifiques, dont toi adores Marguerite Duras.
Mais oui.
Prix Goncourt quand même avec l'amant cette année-là. Moi, je suis complètement folle de Denis Ernaux, qui cette année-là reçoit le prix Renaudot pour La Place. Oui. Et je ne vois pas de prix concernant Françoise Sagan, mais elle aussi, elle avait publié un livre significatif cette année, 1984. Merci infiniment. Alors, mais on va faire une pause musicale, bien sûr. Il y a la chronique de Blaise, mais il y a surtout notre tirage au sort. Tout à l'heure pour savoir quelle sera l'année de notre prochaine émission sur Canal B. Eh bien, maintenant, nous allons entendre la chronique de Blaise, L'œil de loup, par Daniel Penac.
Très bien.
Salut Canal B, tu fêtes tes 40 ans ? Donc, pour ton anniversaire, j'ai choisi un livre spécial qui s'appelle L'œil du loup, qui a été publié en 1984 par Daniel Penac. Moi, j'ai lu le livre qui était de la maison d'édition Pocket Jeunesse, mais c'est pas sûr que c'était la même édition en 1984. L'histoire commence par un loup qui est seul dans une cage au zoo. Ce loup est très triste car Pedrix, une louve qui était avec lui dans la cage, est morte il y a quelques semaines. Donc, il a pris la décision de ne faire que marcher pour oublier sa tristesse. Aussi, il faut remarquer que ce loup n'a qu'un œil. Un matin, le loup va se réveiller et va voir un garçon en dehors de la cage qui le fixe. Mais le loup trouve ça bizarre car par rapport à les autres enfants, normalement, les enfants jettent des cacahuètes sur les singes, courent, crient, mais pas ce garçon. Ce garçon était différent. Il fixait le loup. Et un jour, le loup, ça va l'énerver, et il va aller vers le garçon, va s'asseoir et va le fixer lui aussi. Mais le loup est embêté vu qu'il n'a qu'un œil, il ne sait pas dans quel œil il doit regarder dans l'œil du garçon. Donc le garçon va faire quelque chose qui va apaiser le loup, il va fermer aussi un œil. Et c'est là où on va commencer l'histoire du loup. Quand le garçon va observer l'œil du loup, il va voir une louve avec ses petits. Cette louve s'appelle Flamme Noire et il y a toutes ses frères et sœurs. Et on rentre dans l'histoire du loup bleu quand il était plus petit. Sa famille, ils vivaient tous en Alaska, dans le Grand Nord, mais il y avait des chasseurs qui les traquaient. Et du coup, ils devaient tout le temps fuir et devaient tout le temps se déplacer. Donc, toutes les nuits, ils devaient trouver des nouveaux abris. La mère, elle racontait des histoires à ses petits le soir, des hommes, parce qu'elle a été traumatisée parce que son mari, le grand loup, il a été attrapé par les chasseurs. Un soir, Payette, qui est la sœur des louveteaux, va décider de sortir en dehors de leur grotte et va s'aventurer parce qu'elle était très curieuse et voulait savoir à quoi ressemblaient les humains de plus près. Mais il va se passer quelque chose de terrible. Ensuite, nous allons passer à l'histoire du garçon. Ce garçon vient d'Afrique. Dans son village, tous les hommes ont été anéantis. C'est-à-dire, il y a des hommes qui sont venus pour tuer ceux qui étaient dans son village et c'est le seul survivant. Il a voyagé dans l'Afrique pour essayer de survivre. Donc, il a fait plein de choses. Il a été marchand, il a été berger, il a raconté plein de gens. Et il avait un talent, un grand talent de raconter des histoires qui faisaient rêver. Et du coup, c'était un grand conteur parce que tous les soirs, les gens venaient l'écouter. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous lire un extrait de la page 42. Voilà, ce fut après cette conversation que Loup Bleu accepta la compagnie de Pedrix. Elle était gaie. Ils échangèrent leurs souvenirs. Les années passèrent. La semaine dernière, Pedrix est mort. C'est ainsi qu'on arrive au présent. À ce moment présent, justement, où Loup Bleu est assis dans son enclos vide, assis en face de ce garçon. Œil dans l'œil, tous les deux, avec le grondement de la ville en guise de silence. Depuis combien de temps se regardaient-ils ainsi, ce garçon et ce loup? Le garçon a vu le soleil se coucher bien des fois dans l'œil du loup. Non pas le froid soleil de l'Alaska. Celui-là, avec cette lumière pâle, on ne sait jamais qu'il se couche ou s'il se lève. Non. Le soleil d'ici, le soleil du zoo qui disparaît chaque soir quand les visiteurs s'en vont. La nuit tombe alors dans l'œil du loup. Elle brouille d'abord les couleurs, puis elle efface les images. Et la paupière du loup glisse enfin sur cet œil qui s'éteint. Le loup reste là, assis, face au garçon, bien droit. Mais il s'est endormi. Alors le garçon quitte le zoo sur la pointe des pieds, comme on sort d'une chambre. Eh bien, j'ai adoré ce livre. Aussi, on peut dire que la première des pages de couverture est très bellement illustrée, parce qu'on voit le loup en question avec un seul œil qui nous fixe un peu comme si on était à la place du garçon. Aussi, je voulais dire que l'auteur Daniel Pennac a un grand talent pour faire des parenthèses sur les histoires des deux personnages. Et dans les différents cas présents que raconte l'histoire, il arrive très bien à différencier les deux cas. Il y a des illustrations, quelques illustrations en noir et en blanc, où, je vous donne un exemple, on voit le loup qui se fixe avec le petit garçon. Et franchement, aussi, ce que je trouve drôle, c'est que, justement, le petit garçon vient d'Afrique dans un pays super chaud, alors que le loup vient d'un pays super froid. Oui, neige. Et du coup, c'est très drôle. J'ai retenu que même si on a des origines super différentes, eh ben, en soi, c'est pas grave des différences et on peut accepter tout le monde. Oui, c'est un peu ce que m'a appris le livre, même si en soi, j'accepte tout le monde et j'ai aucun problème avec ça. Mais je trouve que pour les gens qui ont des problèmes et qui ont besoin de comprendre ça, le livre est très intéressant. Je recommande à partir de 10 ans. Parce que franchement, l'histoire est très bien et assez facile à comprendre, enfin à lire, je veux dire. Mais quand même, il y a quelques mots où j'ai été obligée d'aller chercher dans le dictionnaire parce que c'est pas... vu que c'est de 1984, il y a quelques mots un peu... un peu compliqués, assez compliqués. Du coup, je mets quand même pour 10 ans et plus. Même si sur le livre, c'est conseillé pour 11 ans et plus, moi, j'ai trouvé que 10 ans, ça allait bien. Bien, merci à tous de m'avoir écouté. Et bon anniversaire Canal B! C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Eh bien, c'est bientôt la fin de l'émission, mais nous ne pouvons pas nous quitter comme ça, n'est-ce pas Sandrine?
Oui, absolument.
On a promis quand même à nos auditeurs et auditrices que nous allons faire un tirage au sort. Alors ouais. Pourquoi?
Eh bien, tirons au sort l'année de la prochaine émission, bien évidemment.
Oui, voilà. Donc, dans l'ordinateur, nous avons mis toutes les années, sauf la 1984, bien sûr, parce que nous venons de la traiter à la radio. Oui. Et désormais, à partir de 1995... C'est bien ça, hein? Non, 85, qu'est-ce que j'ai?
Mais je t'en prie, en
1985.
Errare humanum est, évidemment.
Exactement.
J'attends...
Le top départ. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas appuyer sur le bouton, ouais, c'est ça?
Et puis maintenant, on y va.
Allez,
c'est
on
parti.
Y va.
Attention, j'appuie.
Oui, vas-y.
Et voilà.
Et la prochaine émission, c'est quelle année, Sandrine?
C'est 1997.
1997.
Ouais, c'est ça.
Eh bien, génial. 26 ans. Extra. Merci beaucoup, Sandrine.
Merci à toi, avec grand plaisir.
Et puis, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bisous. Bye.
Ciao.